de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le Japon et l'Inde commencent les premiers exercices d'avions de chasse près de Tokyo. La boîte noire de l'avion qui s'est écrasée au Népal est retrouvée. Le président appelle la PBN 2023 à se concentrer sur l'emploi et la réduction de la pauvreté. Les tendances touristiques spontanées accélèrent la réalisation de 1,4 milliard de mouvements touristiques indonésiens. Kemenparekraf encourage le tourisme durable à travers plusieurs axes stratégiques. BPS appelle la balance commerciale de décembre 2022 en excédent de 3,89 milliards de dollars américains. Voici le journal complet. Le ministre japonais de la Défense a déclaré que le Japon et l'Inde avaient commencé lundi 16 janvier leur premier exercice conjoint d'avions de combat près de Tokyo dans le but de renforcer leurs liens de défense. Cité d'Antara, l'exercice a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19 apparue depuis le début 2020. L'activité a été approuvée par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays lors de leur réunion inaugurale de défense 2+2 à New Delhi en novembre 2019. Le Japon et l'Inde forment un cadre de défense à quatre voies connu sous le nom de Quad et implique également les États-Unis et l'Australie. Les sauveteurs ont récupéré l'enregistreur vocal du poste de pilotage. J'oblique le pilotage et l'enregistreur de données de vol de l'avion de passagers qui s'est écrasé dimanche du Népal. Les responsables locaux ont déclaré que l'incident qui a tué au moins 68 personnes était l'accident d'avion le plus meurtrier au Népal en 30 dernières années. L'avion transportant 72 personnes s'est écrasé par temps clair quelques instants avant l'atterrissage. Tek Nath Sitaula, un responsable de l'aéroport de Katmandou, a déclaré que la boîte noire avait été retrouvée en bon état. Le président Joko Widodo a demandé à tous les ministres de concentrer le budget des recettes et des dépenses de l'État, APBN 2023, sur les activités productives, en particulier sur la création d'emplois. Lors d'une séance plénière du cabinet, lundi 16 janvier, au Palais Merdeka à Jakarta, le chef de l'État expliquait qu'en dehors des programmes productifs, le budget de l'État 2023 est également axé sur l'achèvement des programmes prioritaires nationaux tels que la réduction de taux de retard de croissance, réduire l'extrême pauvreté et l'ordre du jour avant les élections de 2024. Sur la base de cette directive, le président a demandé au ministère concerné d'inciter les gouvernements locaux à utiliser les fonds villageois pour dynamiser l'économie régionale. Le chef de l'État a également rappelé que l'utilisation du budget régional des recettes et dépenses, ou APBD, doit être en phase avec l'APBN, qui se concentre sur les programmes nationaux prioritaires tels que l'économie populaire, les exportations et l'investissement. Sur la base du rapport sur la tendance des voyages annuels d'Oyo, la tendance des voyages spontanés a augmenté de 14% en 2022. Il a été enregistré que plus de 2,4 millions de commandes ont été effectuées un jour avant le voyage ou même le jour du voyage. Bali a été choisi comme destination principale pour la célébration du Nouvel An, alors que Bandung, Yogyakarta, Jakarta et Semarang sont les principales destinations touristiques. Sur la base de ces rapports, le ministre du Tourisme et de Communication, Sandiaga Uno, lundi 16 janvier à Jakarta, estime que la tendance du tourisme spontané en 2023 accélérera la réalisation de 1,4 milliard de mouvements de touristes nationaux. Nous pensons que cette tendance touristique spontanée en 2023 accélérera la réalisation de 1,4 milliard de mouvements intérieurs avec une contribution de tourisme au produit intérieur brut ou PIB de plus de 4%. Sandiaga Uno a en outre déclaré que l'augmentation de tendance touristique spontanée a été déclenchée par l'assouplissement de la réglementation PPKM. Il espère également que le tourisme spontané deviendra une dynamique de prise de décision pour ajuster les politiques touristiques. Le ministère du Tourisme et de la Communication, Kemen Parekraf, a mis l'accent sur l'encouragement du tourisme durable qui comprend des stratégies de qualité et de durabilité. Le ministre du Tourisme et de la Communication, Sandiaga Uno, dans l'entrevue via Zoom avec Voice of Indonesia de RRI lundi 16 janvier a déclaré que l'accent était mis sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement pour renforcer les produits nationaux, encourager les capacités touristiques nationales, renforcer les écosystèmes nationaux en revitalisant les destinations touristiques et améliorer les attractions touristiques.
Such as sustainable tourism destinations, that all destinations must include concept of green destinations, sustainable tourism observatory, meaning that we need to continue.
Nous renforçons également la compétence des ressources humaines locales, renforçons la mise en œuvre des aspects inclusifs et durables des secteurs du tourisme et de la commerce créative, augmentons l'accès au secteur financier pour les micro, petites et moyennes entreprises et facilitons le développement du marché grâce à un marketing accru en participant ou tenant des expositions. Et pour l'année 2023, nous accélérerons également les droits de propriété intellectuelle comme base d'une stratégie visant à renforcer l'économie locale. Le ministre Sandiaga a ajouté que sa parti a continué également de collaborer avec un certain nombre de détenteurs d'intérêt pour maintenir la force de la reprise du secteur du tourisme et de l'économie créative. L'Agence centrale de statistiques BPS a noté que la balance commerciale de l'Indonésie en décembre 2022 avait enregistré un excédent de 3,89 milliards de dollars américains avec une valeur d'exportation de 23,83 milliards de dollars américains et des importations de 19,94 milliards de dollars américains. Le chef du BPS, Margo Yono, a déclaré lundi 16 janvier à Jakarta que la balance commerciale indonésienne cumulée de janvier à décembre 2022 avait enregistré un excédent de 54,46 milliards de dollars américains avec une valeur d'exportation de 291,98 milliards de dollars américains et des importations de 237,52 milliards de dollars américains. Selon Margo, la tendance de la balance commerciale de l'Indonésie a augmenté de temps en temps. Les trois pays avec les plus grands excédents de la balance commerciale avec l'Indonésie tout au long de 2022 sont les États-Unis, l'Inde et les Philippines. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et en pour le titre « Maintenir la souveraineté indonésienne dans la mer de Natuna ». L'Indonésie est un archipel de plus de 17 500 îles et un littoral qui s'étend sur 108 000 km. Des vastes conditions géographiques présentent bien sûr aussi beaucoup de ressources potentielles qui peuvent être explorées et leur souveraineté doit être maintenue. Récemment, la marine indonésienne a alerté 4 navires de guerre indonésiens, ou KRI, pour protéger la souveraineté de la mer de Natuna du Nord. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major de la marine indonésienne, l'amiral TNI Muhammad Ali, après la cérémonie de la journée de Dharma Samudra 2023 sur le pont principal du KRI Banda Aceh au quartier général du commandement du passage maritime militaire à Jakarta lundi 16 janvier. Comme l'a rapporté l'agence de presse Reuters, la marine indonésienne a déployé des navires de guerre dans le nord de la mer de Natuna pour surveiller les navires des gardes-côtes chinois naviguant autour des eaux territoriales samedi 14 janvier. Les données de suivi des navires montrent que le CCG 5901 se trouve à proximité du champ gazier Blok Tuna et du champ pétrolier et gazier Chim Sao au Vietnam depuis le 30 décembre 2022. Outre les navires de garde côtière chinoise, des navires similaires et des navires de pêche appartenant au Vietnam sont également souvent vus traversant les eaux autour de la mer de Natuna du Nord. Selon le chef d'état-major de la marine indonésienne, l'amiral TNI Muhammad Ali, la marine indonésienne agira si elle rencontre des navires étrangers menant des activités d'exploration et d'exploitation des ressources marines sur le territoire indonésien. Je veux dire sur le territoire indonésien. Il a également souligné que jusqu'à présent, la situation dans les eaux de la mer de Natuna du Nord était relativement sûre et qu'il n'y avait rien qui puisse provoquer de nouvelles provocations. La préparation de la marine indonésienne à protéger la souveraineté de la République d'Indonésie dans le nord de la mer de Natuna est tout à fait justifiée. L'étendue de la richesse marine de l'Indonésie est bien sûr sujette au vol de ressources naturelles, à la piraterie, au terrorisme, à la traite des êtres humains et aux conflits frontaliers. Cette situation oblige bien sûr l'Indonésie à renforcer sa sécurité maritime, notamment dans les zones frontalières avec les pays voisins. C'est Jurita, c'était le commentaire pour ce soir. C'est Jurita, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 janvier 1888. L'accord de Renville a été signé par l'Indonésie et les Pays-Bas. L'accord de Renville est un accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas négocié par la Commission des Trois Nations telles que les États-Unis, l'Australie et la Belgique. L'accord a débuté en décembre 1947, a été signé le 17 janvier 1948 sur le pont du navire de guerre des États-Unis USS Renville en tant que lieu neutre amarré au port de Tanjung Priok à Jakarta. Le contenu le plus important de l'accord de Renville est que les Pays-Bas ne reconnaissent que le Java central, Yogyakarta et Sumatra en tant que territoires indonésiens, l'existence d'une ligne de démarcation entre le territoire indonésien et néerlandais. Les soldats indonésiens doivent quitter les zones contrôlées par les Hollandais, mais l'accord de Renville est devenu beaucoup après que les Néerlandais aient lancé l'agression à Yogyakarta et arrêté le président Soekarno et le vice-président Muhammad Hatta. Passons maintenant à l'événement du 17 janvier 1968, Marah Rusli, écrivain indonésien, est décédé. Né à Padang le 7 août 1888, Marah Rusli est un écrivain indonésien de la classe Balai Pustaka. Il est l'auteur du célèbre roman Siti Nurbaya en 1922. Dans l'histoire de la littérature indonésienne, Marah Rusli est enregistré comme la première romancière Je brûle comme le premier romancier et a reçu le titre de H.B. Yassin en tant que père romain moderne de l'Indonésie. Mara Rusli est décédée le 17 janvier 1968 à Bandung et a été enterrée à Bogor dans l'ouest de Java. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 janvier 1995, un grand séisme secoue la ville portuaire de Kobe. Le grand tremblement de terre de Hanshin, également connu sous le nom de tremblement de terre de Kobe, d'une magnitude de 7,3, s'est produit le 17 janvier 1995 avec un épicentre au nord de l'île d'Awaji, située dans la partie sud de la préfecture de Hyogo. Le tremblement de terre qui a duré 20 secondes a causé d'importants dégâts dans la ville de Kobe, située à environ 20 km de l'épicentre. Le tremblement de terre a tué 6433 personnes, principalement des résidents de la ville de Kobe. C'est Zuri Talk, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Haruskah ku berubah demi cinta, agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua. Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Yeah. Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani. Sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama. Bersama. Asalkan kita
I'm
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée Ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales met l'accent sur la durabilité de la transition énergétique mondiale lors de la réunion de l'IRENA. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, ESDM, Arifin Tasrif, a déclaré que la pression pour accélérer le processus de transition énergétique est une urgence qui doit être préparée par chaque pays. Cet effort consiste à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et à maintenir sur le taux d'augmentation des températures mondiales. Arifin Tasrif a transmis c'était la réunion de la 13e session de l'Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, à Abu Dhabi, Émirats arabes unis, samedi 14 janvier, heure locale. Citant le communiqué de presse du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, 16 janvier, le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales a fait part de l'engagement de l'Indonésie à accélérer la transition énergétique jusqu'en 2023. Il a expliqué que divers efforts étaient en cours, à commencer par le programme d'accélérer le développement des nouvelles énergies renouvelables, EBT, mettre fin plus opérationnel aux premières étapes de la centrale à vapeur, la combustion de la biomasse aux centrales à vapeur PLTU, le programme obligatoire de 30% de biodiesel et le développement d'un réseau électrique supergrid. Lors de la session plénière de haut niveau, Arifin Tasrif a expliqué qu'il s'agit d'un véritable pas vers des émissions nettes nulles en 2060 ou plus tôt, ainsi que le soutien de l'Indonésie à la Conférence des Nations Unies sur le climat COP28 pour s'assurer que le programme se déroule déjà comme prévu. Arifin Tasrif a ajouté que le gouvernement indonésien prépare également divers parapluies juridiques pour fournir une certitude commerciale propice dans les nouveaux secteurs des énergies renouvelables afin d'accroître l'utilisation du développement de la nouvelle industrie des énergies renouvelables et de l'économie nationale. Lors de cette réunion, l'Indonésie est devenue vice-présidente de l'Assemblée avec le Zimbabwe, la Belgique et l'Uruguay. Au cours de la réunion, le ministre Arifin Tasrif a également évoqué le rôle de l'Asie du Sud-Est dans la réalisation de la transition énergétique accélérée. L'une des étapes agressives est réalisée par le développement d'innovations technologiques à faible émission de carbone et un financement important. Selon le rapport de l'IRENA en 2050, l'ASEAN aura besoin d'un financement de 29,4 billions de dollars américains, y compris pour les coûts de carburant, d'exploitation et de maintenance, ainsi que le scénario de coûts de financement avec 100% d'énergie renouvelable. Bon, chers auditeurs, c'est tout, mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la cascade de Suat. Bali continue de soigner les touristes avec une variété de nouvelles destinations touristiques qui rendent les vacances inoubliables. L'un d'entre eux est la cascade de Suat qui est située au nord de Gianyar, précisément dans la rivière Melahangi, le village de Suat, le district de Gianyar, dans la région de Gianyar, Bali. Son emplacement qui se situe entre les attractions touristiques de Tampak Siring, Perak Aten, en environ une heure si vous partez de Denpasar, alors que s'il s'agit de Kuta, cela prend environ une heure et demie. La route d'accès à l'emplacement de la cascade de Suat est également tout à fait adéquate, avec de très beaux paysages naturels. Vous traverserez des rizières et des forêts avec de beaux grands arbres pour que le voyage soit plus agréable. Son emplacement caché est l'attraction principale pour profiter d'une visite passionnante. La porte d'entrée de cette attraction touristique est une porte faite pour ressembler à une tortue avec les mots cascade de soie. Quelque part après le portail, les visiteurs entendront immédiatement le gargouillement de la cascade. Outre la porte d'entrée, il s'avère que des sculptures de tortues se trouvent également sur les rochers près de la piscine de la cascade que vous pouvez escalader pour obtenir de bons endroits lorsque vous prenez des photos. Concernant le relief de tortues dans la zone de la cascade, on dit qu'autrefois dans le village de Souad, il y avait beaucoup de tortues des eaux douces, mais maintenant on ne le trouve plus. Par conséquent, le tortue devient une icône dans cette cascade de Souad. La cascade de Souad a une hauteur d'environ 15 mètres avec une atmosphère naturelle si exotique. Tandis qu'au bas de la cascade se trouve un bassin de baignade assez vaste, même ceux qui ne savent pas nager peuvent jouer dans les eaux en toute sécurité, qui utilisent le flotteur qui a été fourni par le gestionnaire. Cette destination touristique naturelle pour la cascade de Souad est ouverte tous les jours de 8h à 18h heure centrale de l'Indonésie, avec un billet d'entrée de 15 000 rupiahs pour les adultes et 10 000 rupiahs pour les enfants. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Jack Pop is in the house, y'all.
Baby, oh lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup.
Maybe
kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianati.
Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up. Kalahkan dengan
auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Akan Tinggal. Akan Tinggal. Allez, restez. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Akan Tinggal. Akan Tinggal. Allez, restez. Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé Akan Tinggal. Akan Tinggal. En français, allez, restez. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saya. Saya, je. Akan Tinggal. Akan Tinggal, vais rester. Selama satu bulan, un mois. Saya akan tinggal selama satu bulan. Saya akan tinggal selama satu bulan. Je vais rester un mois. Kemana? Kemana? Où? Kemana Anda akan pergi? Kemana Anda akan pergi? Où iriez-vous? Saya akan pergi ke Mandalika. Saya akan pergi ke Mandalika. Je vais aller à Mandalika. Di mana? Di mana? Où? Menginap. Menginap. Dormir. Di mana Anda akan menginap? Di mana Anda akan menginap? Vous dormez où? Saya akan menginap di hotel. Saya akan menginap di hotel. Je vais dormir à l'hôtel. Toilet. 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 Saya mau pergi ke toilet. Saya mau pergi ke toilet. Je voudrais aller au toilette. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase Saya akan tinggal selama satu bulan. Saya akan tinggal selama satu bulan. Je vais rester un mois. Dans cet énoncé, il y a l'expression akan tinggal. Akan tinggal, allez rester. Dans la phrase akan tinggal, allez rester, il y a le mot akan, akan, allez. Le mot akan, akan, allez, fonctionne pour déclarer quelque chose qui va arriver. L'expression akan tinggal, allez rester, indique le sens des projets de vivre quelque part. Et voici un autre exemple. Pour exprimer le sens de quelque chose qui est sur le point d'arriver, le mot akan, akan, aller, suivi d'un verbe. Par exemple, saya akan pergi, saya akan pergi, je vais aller. Et saya akan menginap, saya akan menginap, je vais dormir. Allons écoutons la conversation pour transmettre le plan d'activité. Kemana Anda akan pergi? Kemana Anda akan pergi? Où allez-vous aller? Saya akan pergi ke Mandalika. Saya akan pergi ke Mandalika. Je vais aller à Mandalika. Di mana Anda akan menginap? Di mana Anda akan menginap? Où allez-vous dormir?
Saya akan menginap di hotel. Saya akan menginap di hotel. Je vais dormir à l'hôtel. Chers amis, pour transmettre un plan d'activité, vous pouvez également utiliser le mot mau, mau, vouloir. Dans une conversation informelle, par exemple, saya mau pergi ke toilet. Saya mau pergi ke toilet. Je veux aller aux toilettes. Utilisez pour s'adresser à la personne à qui on parle. Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Yeah. ibuku. Mengapa selalu, selalu, selalu namamu menghantuiku? Karena kamu, karena kamu, sakit hatiku. Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée Negeri Junjung Basao, chantée par Ricky. La chanson dont le titre est Negeri Junjung Basao a été composée par Adiswara Ufauzi Sofiane. Cette chanson parle de la région de Bangka du Sud, Negeri Junjung Basao. Les paroles racontent comment les habitants de Bangka du Sud soutiennent la coopération mutuelle et la fraternité. On dit aussi que la terre de Junjung Basao est un pays fertile, riche en potentiel naturel, touristique et culturel. Ses habitants harmonieux, pacifiques et respectueux des différences font de Bangka du Sud une ville pleine de souvenirs. Bon, chers auditeurs, voici Negeri Junjung Basao de Ricky. Bonne écoute!
hanya suhu. Penghasil saham sudah termasyhur di negeri orang. Adat budaya selalu dijunjung, tempat wisata selalu dikunjung. Hedekah bumi, hedekah ruang, tanda bersyukur hasil bumi melimpah. Kami masam yang pengantin, makan bersumbang hedekah ruang. Ada tradisi di negeri kami, Bangka Selatan junjung besar. Pulau Kelapan, adik terung.
C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.